Bien, bonjour à tous ceux qui sont venus assez tôt, parce que c'est pas toujours évident. La première conférence, première table ronde du matin, c'est toujours compliqué. Bien, alors, le titre, c'est « Le compte, c'est que du bonheur ». Alors, à chaque fois qu'on a évoqué ce titre, vous voyez, voilà, tout de suite. Je crois que tout le monde s'est posé un peu des questions, mais on va plutôt voir comment aujourd'hui, les personnes qui sont ici retravaillent la notion de compte. Donc on a Sylvie Miller qui a écrit quelques contes dans des anthologies de science-fiction. Chantal Robillard, dont le conte est la matière habituelle et le substrat, voilà. Victor Dixen, qui a des personnages qui sortent tout droit des contes traditionnels, et Marie-Charlotte Delmas, qui travaille sur le conte traditionnel, qui...
Ah, tu sais pas quoi dire. Hein.
Oui, hein, mais il y a tellement de choses. En fait, qui vit au milieu des contes. Voilà. Bon. Bien. Donc, je vais laisser la parole. Déjà, Sylvie, tu nous expliques un peu comment toi, tu as travaillé le conte, enfin, comment tu l'utilises.
Alors, donc dans les deux nouvelles sur lesquelles j'ai travaillé au niveau du conte, donc la première s'intitulait La Belle au Poids Mordant. Donc, elle était dans l'anthologie... alors, dans quelle anthologie elle était parue déjà ?
Identité.
Oui, dans l'anthologie Identité. Et donc, dans ce texte, il s'agissait de reprendre, en fait, la légende de la Belle au Bois Dormant, où d'habitude, la Belle au Bois Dormant est une belle. Et là, donc, notre belle était une ogresse qui avait des problèmes donc de poids et qui arrive au château de la Belle au Bois Dormant, donc le château, le fameux château, qui est un centre de remise en forme tenu par des elfes hyper minces. Et donc, évidemment, dans cette société-là, la minceur et la beauté représentées par les elfes est le truc ultime. Et donc, notre ogresse fait tout ce qu'elle peut. Et alors, elle est là. En plus, cette société cultive la beauté à travers l'elfe. Et donc, il y a donc des naines, donc tout un tas de créatures, finalement, qui ne correspondent pas du tout au standard elfique et qui essayent, par tous les moyens, de perdre du poids. Alors, cette pauvre ogresse qui est mise au régime sec végétarien par les elfes, donc évidemment, ça se termine très mal. Elle est avec des camarades ogresses. Bon, elle pète un plomb. Elle finit par bouffer tout le personnel et par se sauver dans la forêt. Donc, voilà. et donc le deuxième conte sur le... Oh bah oui. Le deuxième conte donc s'intitule Le Pacha Beauté. Donc il se situe dans un univers où on a déjà avec Philippe Ward, donc il est coécrit avec Philippe Ward, on a déjà utilisé un univers en Égypte, donc dans une Égypte des années 50 qui est toujours pharaonique, on est sous Thoutmôsis 38. Et dans cette Égypte, les dieux se promènent au milieu des hommes. Et on a décidé, donc, dans le texte précédent, on avait un chat qui avait été utilisé comme personnage de détective qui était assistant de notre fameux détective Jean-Philippe Lasserre. Et donc là, la nouvelle, c'est le Pacha Beauté, parce qu'on a repris, en fait, exactement la trame narrative du conte Le Chat Beauté, mais en l'adaptant complètement à notre univers. Donc cet assistant chat, donc Jean-Philippe Lasserre, le détective, se plaint de ne pas avoir assez d'argent, donc le chat trouve des bottes, part dans le désert et apporte des choses à Pharaon, etc. Et ensuite Pharaon veut marier sa fille à Jean-Philippe Lasserre, et ainsi de suite. Alors pourquoi le conte? Je trouve que c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup prendre la matière du conte et la détourner, parce que finalement, je crois que le conte, c'est quelque chose qui est un peu universel, qui berce nos enfances. On a tous un peu entendu les mêmes histoires. Et du coup, le conte va enseigner peut-être des choses. Je crois que c'est un petit peu son but, de donner un petit peu des leçons, de transmettre des mythes. Et c'est assez universel. Et finalement, toucher à ça, c'est toucher à quelque chose de fondamental, et c'est très amusant pour un auteur de jouer avec. Voilà pourquoi, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à triturer les contes pour les emmener ailleurs.
Bien, je laisse la parole à Chantal.
Oui, je m'inscris un peu dans la même veine, c'est-à-dire détournement de contes, reprise de personnages ou d'éléments de contes. J'ai notamment une pantoufle de verre qui raconte son histoire, donc la création chez un maître verrier, parce que le verre, c'est VE2RE chez Perrault, et pas VAIR, qui est une connerie monumentale. Le verre, c'est du petit gris, c'est-à-dire de l'écureuil. Une pantoufle en fourrure, bon, c'est banal, alors qu'une pantoufle en verre qui raye les parquets, c'est déjà autre chose. Donc voilà, je détourne les contes également. En revanche, moi, je suis nouvelliste, donc je revendique le très court et une chute de nouvelles à chaque fois. Pas une chute de contes, hein. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, ce qui est une caricature de la fin des contes, mais qui est en général un happy end, on va dire ça comme ça, la plupart du temps, encore que, ça serait beaucoup à revoir dans les contes traditionnels. En général, ça se termine bien. Moi, j'ai une chute de nouvelles, c'est-à-dire la nouvelle, il y a tout à coup quelque chose auquel on ne s'attend pas. C'est un peu comme une guillotine, hein, la fin d'un conte. La fin d'une nouvelle, excusez-moi. Et alors, par ailleurs, pour corser les choses, d'une part, je suis très proche de l'Oulipo, je suis membre, non pas de l'Oulipo, parce qu'ils sont très misogynes, mais de la liste Oulipo qui est autour et qui est un peu plus ouverte. On est une cinquantaine à peu près sur toute la France, vous voyez, c'est pas beaucoup. En tout cas, donc, j'utilise des contraintes oulipiennes pour détourner les contes, et ça donne des choses, de mon point de vue, très intéressantes. Évidemment, c'est plutôt pour adultes et adolescents que pour tout petits, parce que si on n'a pas lu Perrault ou Grimm, on ne sait pas en quoi nos contes détournent le conte d'origine. Et par ailleurs, je fais ce qu'on appelle, là on n'est pas beaucoup en France à faire ça, du roman par nouvelle. C'est-à-dire que chaque nouvelle est indépendante, mais l'ensemble du recueil, c'est surtout vrai dans Hôpital Cendrillon, l'ensemble du recueil forme un tout. Et on peut relire après l'ensemble où chaque nouvelle serait un chapitre de quelque chose qui irait vers une fin qui prend du coup un autre sens que chaque nouvelle isolément. Voilà, je m'arrête là.
Merci. Merci Chantal. Alors moi, un peu comme Sylvie et comme Chantal, j'utilise le conte comme matériau, mais dans la respiration du roman. Moi, j'écris des romans assez longs en fait. C'est même une tétralogie, donc c'est une suite de romans. Ça s'appelle Le cas de Jack Spark. Et dans ces romans, j'essaye de convoquer des figures, des contes traditionnels, plutôt des contes de Perrault d'ailleurs que les contes de Grimm. Et pourquoi ce choix? Alors déjà, c'est une envie qui a surgi comme ça, une envie d'écrivain que je pourrais pas vraiment expliquer. Mais en même temps, quand j'essaye de rationaliser, je me dis que ces personnages, ils se connectent directement à nos émotions, parce que c'est les premiers personnages qu'on a rencontrés, c'est nos premières expériences littéraires, en fait, en tant qu'enfant, quand on nous racontait des contes. Et c'est un moyen, finalement, de se reconnecter avec ces émotions très intenses, parce que ce sont des personnages très tranchés, parfois extrêmes, voire violents. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut convoquer dans le roman, et ça donne énormément de force au roman. Je pense que c'est pour ça que le conte, pour moi, est une source d'inspiration très forte. Et on en parlait tout à l'heure, ce qui m'agace aussi un petit peu, c'est l'image aujourd'hui qu'on a de ces contes, qui est l'image léguée par Walt Disney, finalement, qui est très édulcorée. Voire nunuche, voire mièvre, enfin, tous les adjectifs peuvent y passer. Mais quand on relit dans le texte les contes de Perrault, par exemple, il y a quand même une force, une tension, un suspense qui sont, à proprement parler, haletants. Et c'est ça que j'ai voulu restituer dans mon emploi, dans le cadre du roman, des personnages de contes. Voilà.
Oui, vas-y. Voilà, comme ça, tu auras suivi. Alors, moi, je ne sais pas trop ce que je suis. Je suis, alors je vais dire un gros mot, je suis folkloriste, donc je travaille sur les traditions, plus particulièrement sur les superstitions populaires, et au travers de mes recherches, bien sûr, et surtout au travers des collectages les plus importants, ceux du 19e siècle, j'ai croisé beaucoup de contes et j'ai publié des anthologies de contes, et donc je croise plusieurs formes. Alors, je ne vais pas faire un cours sur le conte, parce qu'on n'est pas là, on n'est pas on n'est pas là pour ça ici, mais je vais quand même me suivre quelques fils comme ça en vrac, et je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. Récupérer, détourner le matériau des comptes, c'est une excellente idée à mon avis. C'est ce qu'on appelle, ça c'est toujours fait, et c'est ce qu'on appelle la littérature au second degré, c'est-à-dire que ça fonctionne tant qu'on connaît la première. Hein. C'est le cas par exemple du Robinson de Michel Tournier. Si on connaît Robinson Crusoe, si on l'a lu, même en abrégé, on va comprendre cette littérature au second degré et on va en comprendre toutes les finesses. Si on ne connaît pas l'histoire initiale, on va lire ce livre, on va lire l'histoire de Sylvie ou de Chantal, bon, comme une histoire au premier degré, et c'est bien aussi, mais on n'en saisira pas forcément les finesses. Voilà. Or, au fil du temps, souvent, le premier degré tend à s'effacer. Bon, à mon avis, pour les contes, c'est pas ça. Alors, deuxième petit fil. Moi, je vais prendre des fils comme ça un peu partout. Hein. Deuxième petit fil. On ne sait pas trop d'où viennent les origines du conte. En fait, on a toujours raconté, puisque le conte, par essence, est oral. Et effectivement, comme dit Chantal, elle fait du récit. On ne peut pas faire du conte écrit, sinon on s'inscrit dans une autre tradition, qui est celle du XVIIe siècle, qui est celle du conte philosophique, qui est celle d'un conte très particulier, qui est celle, en fait, d'une époque où on ne connaît pas encore le roman, où la fiction n'existe pas, où on sait qu'il y a des fables d'un côté, ce qu'on appelle les fables, et de l'autre, l'histoire. Hein, grosso modo, il n'y a pas de champ. C'est difficile aujourd'hui de s'imaginer qu'il n'y a pas encore de naissance du champ littéraire et que voilà. Et du coup, eh bien, cette petite forme courte, qui des fois crée aussi un ensemble. Effectivement, c'est les contes de Canterbury, les premiers, c'est de Chaucer, c'est l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, et c'est le Décaméron de Boccace. Voilà, les trois premiers. Voilà, et puis après, et bon, Basile, mais lui qui va partir sur un, enfin, qui va aussi emprunter aux contes populaires. Voilà. Donc, alors on ne sait pas trop. Alors l'étymologie de conte, eh bien, bizarrement, conte, C-O-N-T-E, et conte, C-O-M-P-T-E, sont très proches, et très proches au moins dans une dizaine de langues. Et viennent pour nous du latin computare, qui veut dire énumérer. Et on garde encore dans le terme contine, par exemple, le conte, le C-O-M-P-T, machin. On énumère des choses, on raconte des choses. Donc, on est avec le conte. On a des contes dans la Grèce antique. On en a, enfin, voilà. Le conte, c'est quelque chose qu'on raconte et qu'on raconte aux enfants. Alors, on leur raconte quand ? Ben, on leur raconte, sont les nourrices qui sont des paysannes, hein, les cigognes, le conte de la cigogne, qui plus tard sera le conte de ma mère Loire. Voilà, sont les commères qui racontent ça aux enfants. Et puis, on va raconter aussi dans les veillées. Alors, la veillée, on a besoin d'économiser la chandelle, on a besoin d'économiser le feu, le bois, etc. Donc, on se retrouve tous l'hiver, dès que la nuit tombe, pour travailler dans une salle commune, dans une étable, dans je ne sais trop quoi, où il fait chaud, souvent une étable, parce qu'il fait plus chaud avec les animaux. Et puis, il y a toujours là quelqu'un qui va raconter des histoires. Mais pas que des histoires pour les enfants. Parce qu'on va avoir ce qu'on appelle aussi là-dedans des mémoras, c'est-à-dire des gens qui disent, alors ça deviendra des contes après, mais des gens qui disent, ben vous savez, la mère machin, là, au chemin des quatre trucs, ben elle a vu un revenant. Hein. Ah ben ouais, elle l'a vu. Hein. Ou alors le père Cormier, comme dit Noël de Faye au XVIe siècle, ben le père Cormier, il a vu une fée qui dansait le branle, etc. Machin. Voilà, donc c'est assez... Voilà, on sait comment c'est, on sait quels sont les procédés, on sait assez peu justement quels sont les procédés de production et quels sont les procédés de réception. C'est-à-dire comment au départ c'est produit et comment ensuite, à la même époque, c'est reçu. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'au fur et à mesure que c'est reçu, c'est reproduit et c'est reproduit différemment. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas, jusqu'à ce que ça soit fixé dans l'écriture par les collectages essentiellement du 19e, on ne cherche pas à reproduire, on ne cherche pas à faire, même si on appelle ça aujourd'hui la littérature orale, on ne cherche pas à faire de la littérature. On s'amuse, on raconte. Et d'ailleurs, à partir du 17e siècle, quand arrive la bibliothèque bleue et ce cher Oudot de Troyes, les contes qui sont dans la bibliothèque bleue, les contes de Perrault, on s'aperçoit par exemple que les gens du peuple, les paysans, ils s'en servent, ils trouvent ça génial et ils vont raconter comme ils le lisent, etc. Donc je crois que les caractéristiques du conte pour moi sont que c'est une forme orale. Voilà, le conte dont on parle en tout cas, que ce soit Grimm, que ce soit Perrault, tous deux ont puisé Grimm par leur collectage, Perrault par son fils et par les veillées paysannes dans lesquelles il a noté un certain nombre de choses, se sont servis de matériaux populaires. Andersen n'a jamais écrit pour les enfants, il a appelé ça conte, mais il est dans des contes philosophiques, il est dans de la nouvelle, donc... Première, c'est de la nouvelle. Première caractéristique, le conte, c'est de l'oralité. On énumère, on compte. Et deuxième caractéristique, c'est une forme mouvante qui, à aucun moment, ne peut être figée. Voilà. C'est-à-dire que chacun reprend. Donc voilà, chacun reprend et chacun va raconter à sa façon, avec ses mots. Et c'est ça, la littérature orale, avec ses propres images. Et puis, il va se passer un truc à côté. Alors, ça veut dire que des contes, on peut en faire aujourd'hui. On peut en écrire aujourd'hui. Enfin, on peut en raconter aujourd'hui. Je peux raconter... à l'époque, on racontait des rois, des reines. On peut raconter aujourd'hui, je sais pas... des SK, des contes pour adultes. Voilà, bon, c'était juste pour tirer ses fils. Voilà, on peut raconter comme ça. Voilà.
Oui. Alors là, en vous écoutant, je me rends compte qu'il y a un point intéressant. Ce sont les personnages qui font les liens. Parce que finalement... Il y a des personnages, on ne sait même plus d'où ils viennent, ni qui les a créés, mais quand on dit le petit chaperon rouge, tout le monde a une idée de l'histoire, non seulement de l'histoire, mais on se fait une idée de ce personnage. La Belle au bois dormant, dans le conte dont tu parlais, on en a une idée. Alors bien sûr, après, tu la détournes, mais à la base, on sait qu'on a une sorte d'imaginaire collectif qui fait du lien. Et même si les formes de contes ont changé, ce lien existe toujours.
Oui, mais juste un truc. Mais pourquoi cela ? Pourquoi cela ? Parce que à un moment donné, quand la littérature savante ou quand la noblesse ou la grande bourgeoisie récupère le populaire, et c'est le cas de Perrault, Perrault, c'est un succès énorme. C'est le best-seller complet à travers les siècles. C'est le livre qui a le plus grand succès. Donc, on connaît aujourd'hui les contes de Perrault. Voilà. Peau d'Anon ou Cuir d'Annette, qui est le peau d'âne. C'est un très, très vieux conte. On connaît, qu'on retrouve d'ailleurs, dont on retrouve des versions dans Apulée, dans L'Âne d'Or. On va retrouver on peut remonter chez les auteurs gréco-latins pour retrouver des sources, parce que nos paysans, ils les ont pas complètement... Le conte, pour moi, c'est du mythe dégénéré. Je dis pas dégénéré au sens machin, mais c'est du mythe qui s'étiole, et il en reste une petite histoire, etc. Donc, là, tu dis, les personnages, on est obligé de prendre, ils sont obligés de prendre des personnages connus, et ces personnages, les seuls qui sont vraiment très connus, c'est les personnages de Perrault ou quelques personnages d'Andersen.
Mais par rapport à ce que tu dis, ce qui me semble intéressant de noter, c'est que Perrault, qui a effectivement recueilli cette tradition orale, a commencé à faire œuvre d'écrivain en mettant son œil particulier et son style sur ces figures qui circulaient à la veillée depuis des siècles.
Sa morale aussi.
Mais je dirais aussi son style et un œil très ironique, très distancié. Quand on voit que dans Cendrillon, la reine réclame de manger sa bru à la sauce Robert avec le détail de la recette, c'est quand même un regard extrêmement ironique. Et c'est là que Perrault, qui est Des Perrault, on a ce décalage et on a cette récupération de ces figures orales dans un univers d'écrivain. Et je pense que c'est ce qu'on fait nous aussi, finalement. On est vraiment dans la filiation de Perrault par rapport à ça.
Ben le travail que notamment on a fait sur le donc dans La Belle au Poids Mordant, c'était un peu différent puisque là on détournait complètement les personnages et finalement on a utilisé l'environnement, les lieux, les personnages, mais dans le Pacha Beauté, là il s'agissait, on voulait vraiment finalement réécrire le conte à notre sauce. Et on s'est rendu compte avec Philippe quand on a fait ce travail que dans le conte, il y a bien sûr les personnages qui sont forts, mais il y a aussi derrière la trame de la narration une forme de morale, de leçon. Puisque là, en plus, ce conte-là, il est particulièrement intéressant, puisque dans beaucoup de contes, c'est souvent les gentils contre les méchants, ou une leçon particulière à tirer. Là, dans le Chat Botté, quelque part, c'est trouble. Parce que finalement, on dit que, à travers la roublardise, on peut arriver à ses fins, puisque finalement, avec son chat beauté, le chat qui arrive à faire en sorte que son maître devienne riche en trompant le roi. Donc finalement, dans la matière du conte, il y a aussi des leçons de vie, des leçons qui sont... Alors, est-ce que c'est issu des mythes je ne sais pas, mais c'est une dimension forte que j'ai trouvée dans les contes. Et qu'on retrouve pas mal d'ailleurs ici, dans ce, puisque nous, le travail qui a été fait, c'était dans Contes de ville et de fusée, qui est un ouvrage extrêmement intéressant paru chez Adastra, où là, ce sont les contes revisités, donc sous forme de nouvelles, par un certain nombre d'auteurs. Et on retrouve beaucoup ça, effectivement, une espèce de leçon, une espèce de morale derrière.
Oui, mais justement, parce que tu passes par la littérature savante des contes. Le conte populaire antérieur, il ne dit pas ça du tout. D'ailleurs, il y en a très peu sur le Chat Botté, il y en a deux. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire que Perrault, il règle ses contes. Il fait des cours de morale. Il est vraiment le mec de son siècle, quoi. Donc, il n'est pas là pour... il pique ce qu'il peut piquer parce qu'il trouve ça sympa. Voilà, parce que de toute façon, il y a une règle il y a une unanimité pour dire que à partir du moment où commence à se créer le champ littéraire, ils n'ont pas d'autre alternative que d'aller piquer les seules choses qui existent et qui sont chez les paysans et qui sont les contes populaires, etc. Donc c'est très catho, c'est un homme de son époque et il fait
et vraiment pour rebondir sur ce que tu dis, qui a essayé de plaquer la rationalité de son siècle, parce que c'était vraiment le chef de file des modernes contre les anciens, et il a tourné en ridicule finalement toutes ces figures un peu merveilleuses. Les fées sont quand même un peu emprunté et ridicule chez Perrault, donc c'est le premier peut-être à avoir chaussé le pied à l'étrier de la tradition Walt Disney qui arrive par la suite, où les fées finalement sont un petit peu édulcorées, pas aussi fascinantes qu'elles pouvaient l'être quand on racontait à la veillée. Donc,
T'as raison, c'est en pleine querelle des anciens et des modernes, et c'est pas rien, je veux dire, le contexte...
Oui, sur Perrault, on peut voir autre chose aussi. Il y a un écrivain contemporain qui s'appelle Anne-Marie Gara qui a travaillé sur Perrault en tant que personnage, Charles Perrault, et son fils, Nicolas Perrault. Elle en dit des choses absolument extraordinaires, c'est-à-dire elle part uniquement d'un conte qui est Le Petit Chaperon Rouge, et elle réussit à démontrer, alors on est d'accord ou pas avec ce qu'elle dit, hein, bien entendu, mais elle réussit une démonstration extrêmement brillante et très, très soutenue, très circonstanciée, très tenue, sur le fait que le jeune Perrault avait entendu de sa nourrice, ma mère Loye, c'est ça, hein, c'est pas Loye, c'est Louis, c'est le verbe ouïr, oyez bonnes gens. Donc ma mère Loye, qui était sa nourrice, lui a raconté des histoires de paysans, etc. Et le fils Perrault a commencé à les écrire. Et la première édition est d'ailleurs sous le nom du fils, Nicolas Perrault. Et conte de ma mère Loye. Et le père les a vus, les a repris, les a amplifiés, etc. Donc le père a pris la place du fils et a mis sa patte, son tampon, son imprimature, on appelle ça comme on veut, en collant son nom qui était quand même très connu puisqu'il était historiographe du roi et un personnage important de la cour. Et le fils de rage, toujours dixit Anne-Marie Gara, le fils de rage est parti s'enrôler dans la première armée de la première guerre qui passait, et Dieu sait si sous Louis XIV il y en avait, et il est mort à la guerre à 17 ans. Et Ce que dit Anne-Marie Garat dans un livre absolument extraordinaire, je ne sais plus le titre, mais c'est chez Actes Sud et c'est sur Perrault, elle dit que Charles Perrault a été culpabilisé tout le reste de sa vie. Il est déjà très âgé, hein, en fait. Il était père à une époque où on était déjà grand-père, voire arrière-grand-père. Et il a écrit Le Chaperon Rouge. Ce serait, d'après Anne-Marie Garat, Perrault Charles lui-même qui aurait écrit Le Chaperon Rouge, au fond, pour se dédouaner de ce qui était arrivé à son fils. Donc la démonstration, là, je vous la fais très rapidement, et puis elle est psychanalyste, moi je ne le suis pas, donc... c'est possible, mais c'est extrêmement brillant parce que ça donne un autre éclairage sur le conte. C'est-à-dire que nous, en tant qu'auteurs, on apporte aussi... Pourquoi est-ce que nous, on travaille dans le conte? On ne va pas se psychanalyser ici, mais ça nous correspond à nous, à quelque chose en nous qui nous intéresse maintenant de prendre ce genre-là comme source d'inspiration plutôt qu'un autre. Elle dit que vraiment, Perrault a écrit ce Chaperon Rouge et elle nous l'a relu in extenso avec des petites gloses comme ça qui disaient mais là, enfin voilà, la mère et la grand-mère et la petite fille, ce sont trois femmes, et en même temps c'est le chaperon rouge et pas la chaperonne ou la chaperette ou enfin bon ou la capuche, donc il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Alors encore une fois, on n'adhère pas avec sa théorie psychanalytique, mais c'est intéressant, ça montre, si je vous cite cette anecdote, et puis Anne-Marie Garat n'est pas là en ce moment, hein, mais si je montre cette anecdote, c'est que le conte est beaucoup plus riche que simplement reprendre un personnage ou des personnages, raconter une histoire qui est très belle, ou reprendre une langue. Et je suis tout à fait d'accord avec mon voisin, moi je suis une fanatique de Perrault parce que la langue est extraordinaire, mais la langue de Sévigné aussi, et voilà, c'est cette langue du 17e qui m'intéresse énormément parce qu'elle est très imaginative et qu'elle apporte beaucoup, mais c'est beaucoup plus que ça. Je veux dire, on peut trouver beaucoup d'éclairages aux contes qui sont très différents selon le point de vue d'où on se place, et c'est toute la richesse du conte. Je connais aussi des gens, Jean-Pierre Vernant parlait des contes et des mythes. Bah oui. Alors ça c'est aussi chose, un point de vue extraordinaire. J'ai bien connu Vernant, j'assistais à ses cours à hautes études, c'était formidable. Donc lui, il ne voit dans les contes qu'un reliquat de mythe, mais le reliquat en question, il le fait vivre. Enfin, voilà, je pense que c'est ce qu'il faudrait dire, c'est que si le titre de ce café littéraire, c'était que du bonheur, c'est parce que nous, on a du bonheur à en écrire ou en lire des contes.
Oui, non, juste, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de Charles Perrault et de Pierre, mais... C'est Pierre d'Ardancourt. Oui. Simplement, j'ai fait un bouquin sur Pub. Je ne sais plus s'il est. J'ai fait un bouquin, en tout cas, il n'est pas là, donc ce n'est pas Pub ici. Sur Perrault, et j'ai repris les versions originales, et j'ai mis toutes les versions que je possédais. Donc j'ai travaillé avec un prof, on était deux, qui a travaillé sur le littéraire, et moi j'ai travaillé sur le populaire. Donc Le Petit Chaperon Rouge, c'est un des rares contes. D'abord, il est écrit hein, quand le fils est vivant, bien entendu, puisqu'il il fait ça pour qu'il soit précepteur de la jeune Charlotte, etc. Enfin bon, donc c'est voilà. Et en plus, on a des versions. C'est très difficile de faire de l'archéologie du surnaturel, comme je dis, ou du conte populaire, parce que tout ça est très pollué quand ça nous arrive, bien sûr, par un tas de choses. Mais on peut repérer l'ancienneté d'un conte populaire à des formules particulières qu'on va trouver, parce qu'il y avait des petites formules mnémotechniques aussi, hein, tire la chevillette, machin, etc. Mais il y a des petites formules partout dans les contes populaires. Et donc il y a des versions, j'ai trouvé beaucoup de versions. Sur le chaboté, assez peu, mais il y en a deux. Mais là, ça a été vraiment retourné à la mode, machin chose. Mais par contre, le petit chaperon rouge, il est tel quel avant Perrault. Alors tel quel, non, évidemment, hein, c'est pas. Mais enfin, l'esprit y est, et on a en Gascogne un petit chaperon vert. Dumas a fait un chaperon bleu marine. Oui, il a fait un chaperon. Alors on a différents. Bon, le on a du rouge, on a du vert, on a du rien du tout, etc. Après, c'est voilà, il y a des détails qui sont des détournements. Mais sur sur cette histoire-là, la culpabilité de Pé... Alors là, ça me paraît historiquement un petit peu... Mais bon, moi, je ne l'ai pas lu, hein. Je ne l'ai pas lu, elle n'est pas là. Moi, je... Simplement, là, en tout cas, le chaperon rouge, il est fait avant, évidemment, la mort de Pierre.
Il y a quelque chose qui me frappe dans tout ce qu'on dit là sur la récurrence de ces personnages, de ces réinterprétations. On les retrouve à chaque fois un peu différents, un peu identiques. Moi, j'ai l'impression que la répétition, c'est un des plaisirs du conte pour les lecteurs. Déjà, dans un conte, il y a souvent les mêmes formules qui sont répétées. Le héros va faire 3 fois la même chose et ça va marcher la 3e fois. Le fait, voilà, de répéter, et d'ailleurs, on retrouve l'énumération, le comptage, la comptine. Je pense que c'est quelque chose qui fait vraiment partie du plaisir littéraire du conte, et c'est peut-être pour ça aussi que nous, on essaie de récupérer ces personnages, de les faire revenir, et le lecteur les reconnaît, donc il y a aussi un plaisir de la reconnaissance, de la répétition, et en même temps de la redécouverte. Donc c'est là qu'on a un des fils conducteurs peut-être du conte avec un P.
Computer, les Américains. Oui, oui. Oui, donc ben, effectivement, c'est ce que tu disais au niveau étymologie. Hein,
il y a... Non, mais l'ordinateur, en anglais, c'est computer. Oui. Et c'est la même étymologie.
Oui, oui. On retrouve tout ça. Alors, il y a un autre point aussi. On parle souvent du côté psychanalytique du conte, du sens plus profond qu'il peut y avoir. Et des fois, je trouve qu'en revisitant les contes, on insiste plus sur un point ou sur un autre, ou parfois même on cherche à trop donner la clé. Moi, je préfère quand c'est plus vague. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous voyez, il y a eu bon, Bettelheim qui a voulu donner des interprétations de chacun des contes.
C'est pas ma tasse de thé, ça. C'est pas ma tasse de thé. Je suis pas spécialiste, donc je me hasarde pas dans des domaines qui sont pas les miens. Mais par contre, il y a un psychanalyste qui m'intéresse beaucoup parce qu'il est moi dans le civil, je suis bibliothécaire, donc il a travaillé sur la petite enfance. C'est René Diatkine, voilà. Et Diatkin et Tony Lenné s'étaient rendu compte, avant de monter cette association, je ne sais pas s'il y a des bibliothécaires, et cette association AXÉ, c'est une association qui a été mise en place et qui a prôné l'importance de la lecture du conte, de l'histoire pour les tout-petits, pour les bébés. Voilà. Alors, lui, il m'intéresse parce que lui et Tony Lenné avaient remarqué, c'est comme ça que c'est né d'ailleurs, avaient remarqué qu'ils avaient sur leur divan des gamins de 15-16 ans à problème. Et au bout d'un certain temps, évidemment, d'une expérience de plusieurs années, ils se sont rendus compte que le dénominateur commun des problèmes de ces enfants, c'était que dans leur petite enfance, ils n'avaient pas été mis en relation avec l'imaginaire. Et Diatkin de travailler là-dessus et de dire, ben voilà, le petit enfant, il a deux langues, on va dire deux langages, hein, voilà, face à lui. La réalité, hein, je me brosse les dents, c'est pour ça que moi je déteste tous ces livres pour les gosses, je me brosse les dents, je me peigne les cheveux, je mets ma culotte, papa, le sida, mémé, va mourir, maman, et oh, c'est rien que ça, les trucs à recettes, là. Bon. Et donc il y a ce langage du quotidien, et puis il y a la langue ou le langage de... Ça te fait rire, ça, tu vas faire... le langage de l'imaginaire. Et qui a une vraie importance, puisque si les enfants n'y ont pas accès étant petits, et n'y ont jamais accès, enfin, ça va les perturber complètement. Alors... Ça, moi, sans être psy, tout en ayant au contraire beaucoup de réserves par rapport à cette profession, etc., pardon s'il y en a ici, je trouve que, voilà, ça m'interroge, comme on dit. J'irai pas plus loin, je ne sais pas, mais en tout cas, eux ont mis ça à jour et du coup, ont lancé tout ce mouvement qui a été repris dans les bibliothèques, dans les crèches, etc. Mettons les enfants... Alors, en présence des livres, oui, en présence des livres, mais surtout en présence des histoires des livres. Parce que sinon, après, on se retrouve, et ça a dû vous arriver dans toi, Chantal, dans des animations scolaires, ou etc. On a des enfants qui sont Moi, j'ai fait des ateliers dans des collèges et des enfants, collèges techniques, des enfants en difficulté. L'imaginaire, ils ne comprennent même pas le concept. Voilà, c'est pour le bagnosaure, là, de bagneux. Tu sais, un bagnosaure, c'est un animal que j'ai inventé, que j'ai fait faire, enfin bon, pour le festival de bagneux. Excellent festival, d'ailleurs, Zone Franche, 10-12 février. Et du coup, j'essayais de leur faire raconter l'histoire du bagnosaure. Mais les histoires qui sortaient, c'était... Mais... Alors voilà, donc c'est une dame, elle va à la clinique, machin chose, et parce qu'elle est enceinte, et elle accouche d'un bagnosaure. Oui, mais pourquoi, comment, etc. Non, bah, c'est tout. Et voilà, et donc je pense que c'est très important que les jeunes, effectivement, aient accès à ça. C'est le seul, tu vois, la seule chose que je connais. Bon, j'ai lu Bettelheim comme tout le monde, mais ça m'a gonflé comme tout le monde, sur certains trucs, et puis j'ai adoré, voilà. Il y a des choses, mais... C'est difficile quand on ne connaît pas soi-même et qu'on n'est pas dans la recherche, dans la même discipline de recherche, de juger, qu'on prend ce qu'on nous donne.
Donc, pour aller dans ton sens, oui, j'ai fait des constatations un petit peu équivalentes, puisque moi je suis enseignante et que j'enseigne depuis des années dans le 93 sur des zones difficiles avec effectivement des adolescents et jeunes adultes. Et j'ai constaté ça aussi notamment sur des enfants de milieux particulièrement difficiles où vraisemblablement dans l'enfance il n'y a pas eu cet accès à la lecture, à l'imaginaire et aux contes. Et où finalement ils ne savent pas créer. C'est-à-dire que... par rapport à des... On les met dans une situation où il faut imaginer des solutions, inventer. Alors, ils savent très bien répéter les choses quand on dit il faut faire comme ci, comme ci, comme ça. On applique la recette, on sait le faire. Et quand on dit, ben voilà, il y a quel problème, qu'est-ce que tu ferais? Ben, je sais pas, dites-moi ce que je dois faire. Non, mais toi. Et donc, justement aussi, face à des situations où on les met en décalage, ils sont totalement perdus. Parce qu'on a l'impression, effectivement, qu'ils ne savent pas faire appel à leur imaginaire, être capable de faire un truc un peu fou, un peu... Et finalement, après, ça passe dans une certaine forme de violence, ou de... parce qu'à un moment, ils pètent un plomb, et ça part dans tous les sens, et c'est pas maîtrisé.
Alors ça, c'est un peu le propos aussi de l'histoire sans fin, puisque dans l'histoire sans fin, le pays de l'imaginaire est en danger, on l'a remplacé par des mensonges. Et il y a une critique aussi de peut-être du formatage de l'imaginaire, de la là-dessus Walt Disney, je trouve, est terrible, parce qu'il a tellement imposé des images de ses personnages que pour beaucoup d'enfants, il y a la Belle au bois dormant, on la voit d'une certaine manière et avec la robe forcément de la même couleur et tout, il y a une sorte de formatage de cet imaginaire qui appauvrit.
Tout dépend. Si l'enfant n'a eu effectivement que du Walt Disney, et en plus du Walt Disney, le deuxième problème, c'est lorsque il est visionné, le Walt Disney en vidéo ou en film. Là, effectivement, on bride. Mais si par ailleurs, il y a d'autres livres, parce que le livre, je trouve que l'enfant va beaucoup plus visualiser le personnage dans sa tête, se le mettre à sa sauce, se l'inventer. Puisque dans le livre, on recrée l'image dans sa tête. Et ça favorise le processus de création imaginaire. Effectivement, c'est très édulcoré. Mais un enfant qui va regarder des films de Walt Disney, mais qui par ailleurs a accès à des livres, à des contes, et à qui on raconte éventuellement l'histoire de la Belle au bois dormant, autre version, là, il va faire son travail d'imaginaire, il va se rendre compte que c'est une représentation possible, et d'ailleurs lui-même prendra la liberté de dessiner le personnage autrement, en disant, tiens, moi je le vois à ma sauce. Donc Walt Disney, à la limite, en soi, pourquoi pas, c'est une façon de véhiculer le conte, mais si on ne reste pas qu'à ça.
Mais en même temps, c'est vrai que, pour rebondir sur ce que tu dis, ce côté hégémonique des images, des personnages par Walt Disney, pour nous auteurs, c'est aussi une opportunité, parce que ça nous permet de dynamiter ces statues qui sont un peu creuses pour recréer quelque chose de beaucoup plus vivant, réincarner ces personnages. Donc moi, je vois ça un peu comme une aubaine aussi pour casser les idoles. C'est intéressant.
Et les littératures de l'imaginaire en ce moment, tout ce qui est fantastique, SF, fantasy, je trouve qu'il y a énormément d'auteurs justement qui vont replonger là-dedans. C'est peut-être, comme tu disais, que finalement le conte, on le raconte, on le véhicule et on le transforme. On est peut-être, nous, des passeurs de contes, des passeurs d'images, d'idées. Et je trouve qu'il y a un foisonnement là de littérature dans ces littératures de genre où on manipule, on triture, on change et finalement on fait passer le conte contes à d'autres.
Et c'est vrai que mais... c'est...
Non, non, vas-y, non, je veux juste dire que Walt Disney fait la même chose. C'est-à-dire qu'il prend, il dit pas « je suis dans la vérité, dans la tradition », il prend un conte, il en fait un film, et moi je pleure quand je vois Bambi. Et,
après, c'est vrai que c'est
et moi j'aime bien les films de Walt Disney. Voilà, il faut prendre ça comme ça, c'est pas... voilà, c'est une version, après c'est pas la seule, mais un jour peut-être... enfin, il y a pour des il y a des enfants pour qui c'est la seule.
Voilà, c'est ça le problème.
Et,
c'est
pas, ouais. Et heureusement qu'ils ont vu le film, sinon ils pourraient pas comprendre vos histoires.
On est à nouveau dans ce système de référence dont on parlait au début de la table ronde, que pour bien apprécier les recréations de ces personnages, il faut déjà maîtriser les références de base. Mais au moins le conte est partagé par tous. C'est pour ça que c'est un matériau super pour.
Alors.
Pour...
Moi, je trouve qu'il y a un domaine dans lequel les images des contes ont été pas mal dynamitées, c'est l'image de la femme. Parce que, bon, les princesses qui attendaient gentiment et tout, ça, dans les contes actuels, la plupart du temps, on revisite tout ça. Je sais pas, je pense que vous avez...
ça me fait juste penser, je viens de recevoir plusieurs fois le même mail de gens différents, donc ça doit circuler sur la toile. C'est une amie qui m'envoyait ça. Je croyais que ça venait d'elle, et en fait, apparemment, ça, ma fille m'a dit, mais je l'ai eu aussi, donc voilà. Ce mois de mai est extraordinaire. Le prince a épousé une bergère. On voit qui c'est. Le méchant a été tué. Le vilain est en prison. Enfin, il vient de sortir. Le vilain est en prison et Blanche-Neige est enceinte d'un nain. Alors, sans commentaire, c'est pas de moi, rassurez-vous, et je le mettrai pas sur mes blogs. J'ai failli, puis je me suis dit non, quand même, la fin. Bon. Mais c'est vrai que si on veut voir les choses sous le prisme du conte, la vie moderne est pleine d'histoires comme ça. On parlait à table, au petit déjeuner, on parlait des ogres. Non, c'était hier soir, peu importe. On parlait des ogres, mais il y a, hélas, heureusement de moins en moins, il y a des anthropophages. On voit de temps en temps un étudiant qui a bouffé sa copine parce qu'elle le... Ben voilà, c'est rarissime, mais ça existe. Si vous lisez Gao Xingyang, le prix Nobel chinois, La montagne des âmes, hein, il décrit à un moment des paysans chinois dans un endroit reculé, dont, si j'ai bien compris, c'est pas très loin du Tibet, qui bouffe un homme sauvage. Cet homme sauvage, c'est un yéti. Donc, et d'une, on retrouve Tintin, Hergé et le yéti. Et de deux, en vrai, si l'histoire est vraie, j'en sais rien. Et de deux, il y a des endroits où les gens, s'ils ont faim, ils n'hésitent pas à manger le voisin. Alors, ça se fait, Dieu merci, plus beaucoup. Mais enfin, au temps de Perrault, il y a eu de très grandes famines. Donc, le petit poussé, voilà, il y a une réalité... comment dire, historique, anthropologique et tout ce qu'on veut, quotidienne, derrière les contes. Regardez les familles recomposées que nous avons quasiment tous actuellement. Tous nos enfants, presque tous, ont des demi-frères, demi-sœurs. Et alors, c'est Cendrillon et ses deux demi-sœurs qui ne l'aiment pas. Les marâtres, alors c'est vrai que le mot est affreux, mais tout le monde, plus ou moins, dans les enfants actuels, ont des belles-mères, des beaux-pères. Moi, j'avais un neveu qui, à 12 ans, ne savait même pas que j'étais la sœur de son père. À force d'avoir été transbahutée de famille en famille et de point de chute en point de chute, il ne savait plus rien reconnaître à 12 ans. Voilà, il y a une réalité actuelle qui peut se retrouver dans certains éléments des contes, pas dans tous, mais dans certains.
Oui, et ben c'est exactement, j'abonde à 100%, parce que c'est le cas effectivement de tous les contes anciens. Ils sont liés à l'histoire, bien entendu. Hein, ils sont liés à l'histoire d'une, pour parler des contes français entre guillemets, mais c'est pareil pour puisqu'on a des versions. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est des fois pas des bonnes versions. Enfin, bon, restons sur un territoire connu. On a des contes qui ont évolué en fonction du contexte historique. Il est évident qu'avant Louis XIV, on a une France qui est une France faite de petits royaumes où il y a des petits roitelets partout, où il y a d'ailleurs énormément de... Il y a énormément de légendes qui circulent. Ce qu'on appelle aujourd'hui, à mon avis, de façon tout à fait sotte, les légendes urbaines, on n'a pas attendu le 21e siècle pour faire des légendes urbaines. Les légendes urbaines, elles existent déjà au Moyen-Âge. Ce sont simplement des légendes qui courent sur des faits, sur des personnages, sur des machins. Et des roitelettes aux Grèces, il y en a plein. C'est une Marguerite de Navarre est accusée de manger des enfants. L'autre là, Margot, la reine Margot, l'autre, la tour de, voilà, on les accuse de manger des enfants, machin. On est dans une époque où tout est, bien sûr, on est dans une époque où tout est possible. Ce qui nous paraît pas possible aujourd'hui, à l'époque, tout est possible. Il n'y a pas de césure entre le merveilleux, le réel, le machin. On est dans un monde voilà, où on voit pas les choses, comme tu dis. C'est toi qui parlais de l'ombre et de la pénombre, non? C'est pas toi qui parlais de ça. Hier, je parlais de ça avec quelqu'un. Voilà, c'est-à-dire que imaginez l'univers à la bougie. Hein, voilà, pendant les grandes tempêtes, on parlait de ça hier, tout d'un coup, quand il n'y a plus de chauffage, qu'il y a tout machin, voilà, on est dans un autre univers. On ne peut pas, avec nos mentalités, comprendre. Ceci dit, il y a des famines. Les enfants qu'on met en nourrice, d'ailleurs on le voit, c'est encore vrai sous Zola, les nourrices, elles prennent le fric, et après les mômes les laissent pendus dans les tables, crevés de faim, etc. On a une mortalité infantile énorme. Par contre, contrairement à ce qu'on peut penser, les gens vivent assez vieux. Mais on a une mortalité infantile énorme. Voilà. Donc tout ça, perdre les enfants, ben oui, probablement. Voilà. Alors après, on métaphorise. Et puis il y a, mais ça, je vais pas démarrer là-dessus parce que ça, c'est l'occasion d'une autre table ronde à laquelle je vous invite à participer. Je sais plus quand, dimanche, sur le pourquoi les enfants aiment les histoires effrayantes, etc. C'est qu'il y a aussi une fonction dans le conte et dans certains contes qui est une fonction croque-mitaine. Et c'est essentiel, parce que les enfants sont face à des dangers multiples et qu'il faut leur dire attention, le loup, si tu vas là-bas, le loup va te manger, tu sais, c'est, petit chaperon rouge, est-ce qu'il lui est arrivé, etc., machin, etc. Donc, il y a tout, je ne sais même plus pourquoi j'ai parlé de ça, je suis partie, j'ai tiré un fil et je ne sais pas où il m'a amené, mais ça ne fait rien.
Bien. En tous les cas, on voit que le conte, enfin, ça donne vraiment envie de relire aussi bien des contes traditionnels que des contes actuels pour faire les passages. Je voulais laisser aussi un peu, peut-être, du temps pour quelques questions. Vous avez dans la salle? Oui.
Oui, j'avais une question. Vous disiez, on peut aujourd'hui, on écrit des contes encore, ça existe, mais il n'y a plus l'éveillé. On raconte. Ouais. Il n'y a plus l'éveillé, justement. Il n'y a plus cette circulation orale possible dans des veillées. Il n'y a plus vraiment de circulation orale par les nounous, parce que la vidéo de Disney, elle est peut-être plus facile, pas pour toutes, hein, mais c'est parfois le cas. Alors aujourd'hui, quel est le support oral pour véhiculer les nouveaux contes?
Alors, il y a toujours une transmission familiale. Moi, ma maman m'a raconté des contes, j'en ai raconté à ma fille. Donc ça dépend des patrimoines familiaux. C'est sûr que on peut pas généraliser ça du tout. Il n'y a jamais eu autant de conteurs qu'aujourd'hui. Des gens qui sont passionnés par le conte, des comédiens au chômage qui se disent que là, ils vont trouver éventuellement un créneau pour gagner leur vie. Voilà, qui reprennent des contes traditionnels, mais aussi qui se placent, et je pense à mon ami Bruno de la Salle, qui se placent dans une, ou même à Henri Gougaud, qui se placent dans une autre, qui sont des vrais conteurs. Voilà. Bruno, quand il prend une épopée et qu'il balance, et y compris, il en a écrit maintenant des épopées. Voilà. Il prend une forme qui est une forme particulière, celle de l'épopée, et il balance son truc et il emmène les gens avec lui, etc. Et je viens de dire son nom, Gougaud, Henri. Et Henri, c'est pareil, Henri, il fait comme Chantal, c'est-à-dire qu'il démarre, il prend les contes qu'il aime, il va les transmettre et il prend un tiroir. Voilà, il prend un tiroir, il sort un premier conte du tiroir, et puis il va enchaîner avec un deuxième, et ça me rappelle, avec son accent du midi, là, et ça me rappelle, et machin, et tout ça. Et finalement, à la fin, il repeint, il retrouve le même tiroir dans lequel il va ranger. C'est magnifique. Donc, des conteurs, il y en a, qui sont toujours dans l'écriture, dans la littérature orale. Mais, voilà, les meilleurs sont des écrivains. C'est évident, parce que c'est, il faut inventer au fur et à mesure qu'on. Alors bon, Bruno, il apprend par cœur, il écrit puis il apprend par cœur. Mais voilà quoi, il racontait comme ça. C'était, je pense que le conte est issu. Alors bon, ça n'engage que moi et c'est pas du tout vérifié par personne d'autre. Je pense que le conte est nous vient des jongleurs, nous vient des aèdes, nous vient de cette poésie épique qui était récitée, dite, où on venait chanter enfin une partie en tout cas des contes où on venait chanter les exploits de Charlemagne ou de machin, parce qu'après des contes sur Charlemagne il y en a un paquet. Hein. Alors je sais pas, mais on peut raconter. On peut inventer des histoires, on peut inventer des histoires d'aujourd'hui, mais c'est vrai que voilà, la transmission, cette transmission-là, en tout cas, elle s'est arrêtée au 19e avec l'électricité. À la fin du 19e avec l'électricité, ça a été très rapide, à partir du moment où la France a été électrifiée.
Oui, mais Marie-Charlotte, toi comme moi, on le sait très bien, il y a aussi quand même quelque chose actuellement au 21e siècle, une explosion extraordinaire, en tout cas en France, en Europe en général, mais en tout cas en France, c'est les bibliothèques. Donc le dernier lieu où on peut aller lire ou se faire lire ou entendre des contes ou d'autres histoires, enfin toutes sortes de livres, c'est les bibliothèques. Et maintenant, il y en a pratiquement partout. Enfin, le moindre village a sa bibliothèque. Ça, c'est ma casquette, ministère de la Culture. Je suis désolée, mais je ne peux pas m'empêcher de l'avoir. J'ai construit plus de 100 000 mètres carrés de bibliothèque. Il m'en reste un peu quelque chose. Voilà, c'est des lieux quand même conviviaux. Et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de sortes de gens dans les bibliothèques, y compris d'ailleurs des clochards, ce qu'on appelait dans les bibliothèques universitaires autrefois la fonction chauffoir des bibliothèques. C'est que c'est un lieu gratuit où on peut s'asseoir, lire le journal, sans qu'on vous demande quoi que ce soit. Bon, cette fonction-là, il ne faut pas l'ignorer, existe aussi pour les enfants, et notamment les ados qui s'ennuient le mercredi, qui ne savent pas où aller, ou les parents qui ne savent pas où les mettre. Et donc, le livre, là pour le coup, le livre est l'occasion soit de relire des livres, si l'enfant a envie de lire, soit en tout cas de les entendre, parce que tu parlais tout à l'heure d'une association Accès, mais moi j'ai travaillé... bien avant, et certainement toi aussi, l'heure du conte a pratiquement toujours existé dans les bibliothèques. Moi, dès que j'ai commencé ma carrière, à 21 ans, je lisais des contes aux enfants, voilà, à la demande, le jeudi, puis le mercredi, enfin, voilà. Donc, c'est une réponse.
Bien. On a plus, peut-être pour continuer à discuter, mais là, ça va... Oui, juste une, voilà.
Les contes d'aujourd'hui sont les romans, voilà.
Alors là, je ne sais pas, peut-être Victor ou Sylvie qui...
J'ai pas d'avis tranché sur la question, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des résurgences dans les légendes urbaines, des monstres, des contes. Hein. Il y a notamment les alligators du métro de New York qui ressurgiraient. Alors, en fait, ce sont des figures de contes.
C'est du mémora, c'est pas du conte.
Ouais, dans la structure, voilà. On n'a pas...
C'est pas du conte. Déjà, à l'époque, les animaux surnaturels, etc., c'est pas du conte. Voilà, donc...